Avec nous aujourd'hui, Pierre Calvé, oui, le seul, l'unique, celui que vous avez écouté dans votre prime jeunesse, si vous avez à peu près... si vous avez à peu près l'âge de celui qui vous parle et de celui que nous recevons. Les belles années, donc, des boîtes à chansons, Pierre Calvé. Vous parliez du Méridien parce que vous y avez été, donc, après cet épisode de Cuba qui n'a peut-être pas été... assez désastreux. Vous devenez directeur de ce qui pouvait s'apparenter à une boîte à chansons, à tout le moins.
Ben, c'était beaucoup trop super club pour appeler ça une boîte à chansons, mais j'en ai fait, à cause de ma façon de recevoir les gens, un endroit très, très convivial, chaleureux, puis les gens venaient comme chez eux. C'est finalement, au complexe des jardins, il y avait des fois pas un shop, il y a rien qu'à la boîte à chansons qu'il y avait du monde.
Qui passait chez vous?
Ah, ben là, j'ai eu 95-100 artistes différents. J'ai autant Monique Lérac que Julie Harel, René Claude, Risset Barrier, Isabelle Aubray, je pourrais vous en Tex Lecor, Claude Gauthier.
Et c'était très fréquenté.
Ah, c'était très, très fréquenté. Puis il y a des fois même qu'on refusait du monde.
Une aventure qui a duré 4 ou 5 ans?
Ça a duré 4 ans. 4 ans, mais j'ai abandonné parce qu'à la fin, je ne pouvais pas continuer à travailler dans ce style-là. Parce que là, on me demandait de faire beaucoup plus de populaire. Et puis, finalement, il a fallu que j'engage quasiment comme des danseuses de cancan. Là, ça n'était pas du tout dans le domaine.
Et vous n'étiez pas à l'aise avec
non,
ça.
Non, déjà que j'ai réussi quand même à faire un très, très beau mélange des fois, autant avec Michel Richard qu'avec Michel Louvain, qui ont chanté à boîte à chansons. Puis c'était vraiment des spectacles qui attiraient leur public à eux, mais ça se mariait très bien, ça pouvait très bien. Avant, là, on ne pouvait pas mêler les chansonniers avec les artistes qu'on appelait populaires. Mais au Méridien, ça s'est fait, puis ça s'est fait d'une façon très heureuse.
Vous gardez un beau souvenir de cette
période.
Un
beau souvenir, puis j'ai trouvé qu'il y avait de ces artistes-là qu'on connaissait moins parce qu'on les fréquentait pas comme chansonniers, de grands artistes avec beaucoup de professionnalisme.
Je sais que vous aimez beaucoup la musique classique. On ouvre la voie cette fois sur la musique chorale. Musique de John Rooker, qui est un compositeur britannique contemporain qui écrit vraiment de belle chose. Mm-hmm. Ce que nous allons entendre, c'est Angel Carol. C'est interprété par Gondwana Voices. C'est un chœur d'enfants de renommée internationale de l'Australie, composé de chanteurs de 10 à 16 ans et dirigé par Lynn Williams. L'appellation de Gondwana, et là, ça va probablement vous faire sourire parce que vous aimez les voyages, ça réfère au supercontinent formé tout à la fin du néoprotérozoïque, soit il y a 600 millions d'années.
Oui,
tout à fait. Et qui a commencé à se fracturer à l'époque du Jurassique, c'est-à-dire il y a 160 millions d'années. Vous voyez, c'est assez intéressant.
Oui.
Mais la chose est plus...
On est loin des choristes.
Oui, tout à fait. Mais la Nouvelle-Zélande, et c'est là où on peut faire le lien parce qu'on parle d'enfants australiens, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée et l'Australie origineraient, semble-t-il, de ce super continent qu'on surnommait Gondwana. Alors voici Gondwana Voices.
Ben, j'ai hâte d'entendre ça.
Thank you.
C'est joli, n'est-ce pas?
Oh, très, très, très beau.
C'est presque céleste.
Ah oui, mais j'aime beaucoup les choristes. Tu sais, on en parlait tantôt.
Le film, entre autres.
Oui, c'est beau.
Quand on évoque, on a évoqué la période du Méridien, mais si on revient encore un peu plus loin en arrière, l'époque des véritables boîtes à chansons, quels souvenirs vous gardez de cette période-là de façon générale?
Bien, d'abord, c'est... On était privilégiés parce qu'on avait un public qui apprenait en même temps que nous autres. On aurait dit que toutes les maladresses, toutes les choses malhabiles qu'on pouvait faire au tout début, moi je me souviens des spectacles qu'on faisait des fois sur la rue Gatineau, le bistrot, je m'étais occupé de ça en 61, puis la pointe au café, c'est tellement des beaux souvenirs parce que le public... était à l'écoute. Et puis, ce qu'on connaissait avant, c'était les clubs, c'était des places où le monde prenait un coup puis n'écoutait pas.
Mais vous vous adressiez à un public jeune, d'abord. Il faut dire que la masse, au plan de la population, dans la pyramide des âges, c'était une pyramide inversée. La base était formée de très, très grands noms, un très grand nombre de jeunes, cette génération d'après-guerre, qui avait soif d'un nouveau son, qui avait soif aussi de toutes sortes d'idéaux et qui, à travers les paroles des chansonniers et de la musique que vous leur apportiez, pouvait imaginer un monde meilleur.
Ça peut se penser comme ça, ça peut être comme ça. Mais il faut dire que quand on, si on calcule Vigneault, Léveillé, Ferland, qui ont peut-être 8 ou 9 ans de plus que nous, que je parle de Gauthier, Letourneau et moi, admettons, pour situer. Là. Et puis, le public qui était devant nous, si on avait 22 ans, il y avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, ben, le monde qui viendrait au spectacle, ils ont peut-être dans ceux qui nous connaissent dans la soixantaine, et même avancé des fois. Tu sais. Fait que c'est le public de Charlebois. Je me souviens d'avoir eu Robert Charlebois puis Jean-Guy Moreau comme public au bistrot sur la rue Gatineau. Ils avaient tous les deux 16 ans, et j'en avais 22, tu vois. Fait que ça fait quand même un bout.
Mais M. Calvi, vous nous disiez que le public était attentif. Et ça, c'est générateur, j'imagine, d'une énergie profonde pour un chanteur, pour un compositeur, pour un auteur, de se savoir écouter.
Je pense que c'était dû aussi beaucoup, beaucoup au fait qu'il n'y avait pas d'alcool. Ça fumait, par exemple. Il n'y avait pas d'alcool. Et puis, il y avait un respect. Il y avait un respect. Puis c'était, même si c'était avec du mauvais matériel, souvent, on réussissait à passer à travers. J'ai vu, moi, chanter dans des micros qui changeaient complètement la voix. Tu sais, que ça aurait été comme une balle de ping-pong. Tu sais. On n'entendait que des mauvais sons. Bon, j'ai pas aimé du tout des disques qu'ils ont fait à la butte à Mathieu, qu'ils ont pris en direct. Parce qu'ils mettaient un micro par terre sur la scène, puis il ramassait le son. Je trouve que ça sonne pas bien, puis c'est mal nous servir que de nous faire entendre ça. Même si c'est beau pour les archives, je pense que c'est pas bien servir ceux qui ont travaillé pour faire des chansons. Fait que je pense, moi, j'aime pas ça.
Avez-vous l'impression, cependant, que vous avez été, ces auteurs, compositeurs, interprètes, des vecteurs de changement de la société?
Ah, sûrement. Sûrement, parce que c'est par la chanson qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et reçu et interprété beaucoup mieux que par des discours politiques. Ça, je suis persuadé de ça.
Vous étiez donc sensible à l'environnement qui était le vôtre, de cette société qui était en transformation, en mouvance, un peu partout. En France, bon, on se souvient du phénomène des 68 heures. Ben ouais. Il y a eu la révolte à l'Université Berkeley, la fin aussi, la contestation face à la guerre au Vietnam, le racisme qui existait dans les États du Sud. Et ici, au Québec, on essayait de sortir d'une espèce de cloisonnement au plan des idées.
Non, mais on y a goûté dans les années 70, au début, là, quand même. Tu sais, dire tout le monde se faisait arrêter pour rien.
La crise d'octobre.
Évidemment. Oui. Moi j'ai même... je dis pas que j'étais craintif, mais ça me rendait mal à l'aise d'aller faire ma tournée en Ontario. en 70-71, c'était juste pendant ou après la crise d'octobre. Je me demandais comment on serait reçu, tellement c'était équivoque pour certaines personnes.
T'sais. Et comment l'étiez-vous?
Ça s'est bien passé quand même. Je trouve que les gens nous ont pas harcelés. J'ai fait quand même... En Ontario, là, il y a des places... Je me demande pourquoi même on pourrait même continuer à les chanter dans ces endroits-là, tellement les gens sont fermés et ils veulent rien savoir. T'sais? Fait que finalement... Je suis content de l'avoir fait.
Mais vous avez ouvert la voie, parce que vous parlez de l'Ontario, à des auteurs, compositeurs, interprètes. Je pense, par exemple, à Robert Paquette.
Ah, ben oui.
Robert Paquette, qui a connu une belle carrière.
Ben, je comprends donc.
Et qui est issu de l'Ontario.
Daniel Lavoie, dans Manitoba.
Au Manitoba.
Bien sûr. Puis même en Louisiane, avec Zachary. Mais en Louisiane, c'est beaucoup plus dur. La Louisiane, j'ai trouvé ça vraiment... Je dirais pas une perte de temps, mais au moment où j'ai fait mes spectacles en Louisiane, j'en ai fait une trentaine, j'ai trouvé que les plus difficiles à atteindre, c'était ceux qui essentiellement parlaient français.
Pourquoi donc?
Je le sais pas, c'était comme s'ils s'étaient braqués contre la langue française, qu'ils voulaient rien savoir. Puis les plus beaux succès, j'ai eu, c'était à l'Université de Bâton Rouge, des beaux articles dans les journaux avec le Grambling College, c'était tous des noirs, football. C'est à Lafayette, j'ai eu plus de misère. On aurait dit que le monde voulait pas essayer. Peut-être que ça a été une mauvaise période, en 72, 73.
Donc plus tard, Zachary Richard fera œuvre utile.
Ah ben, je comprends donc. Lui, il était peut-être une quinzaine d'années de moins que moi, là, tu sais.
On va vous permettre d'entendre, moi, ce que j'appelle un beau cadeau, peut-être, de la vie, c'est-à-dire l'interprétation qu'en a faite de cette belle chanson que vous avez composée, « Le vent de l'hiver », chantée par...
Ah, oh, Monique Lérac avec les compadres, ça, ben, ça fait du bien.
Le vent fredonne un air plus triste que l'automne. Il me nargue d'hiver. Je le déjoue et me presse de retourner à mon repère où la chaleur, ma maîtresse, cherche à couvrir mon univers. Dans le soleil de décembre qui me servait de baldaquin, passent les jours, les nuits blanches, le vent jaloux se meurt au loin. On s'aime, on cause, on s'aime encore, on se repose, on parle d'avenir, de plages et de vacances, de l'oasis des souvenirs. Et sur le quai des partances, on rêve avant de s'endormir. Chansons nouvelles au rythme qui feront danser. J'ai rempli mon escarcelle de quoi payer le temps passé. Dans ces cordages, je me sens tout comme en voyage. Le printemps s'est ancré et se poursuivra la fête bien au-delà du mois de mai. Le vent me monte monte à la tête. Vive l'amour, vive l'été.
C'est toujours plaisant de savoir, Pierre Calvi, qu'une grande dame, par exemple, comme Monique Lirac, interprète une chanson comme la vôtre. C'est un beau cadeau de la vie.
C'est tellement extraordinaire. Il y a même Pauline Julien qui avait pris « Quand les bateaux s'en vont », puis « Toi le printemps », puis c'est avec ça qu'elle est allée chanter à l'Olympia à Paris, puis elle a fait la Comédie canadienne à Montréal. C'était en 64, ça fait quand même longtemps. Et puis, j'ai toujours été vraiment très, très bien servi. Lucille Dumont, elle a enregistré 6 chansons de moi, mais c'est, Lucille Dumont, on ne l'entend plus, là, même sa compilation est disparue.
Une grande dame de la chanson.
Oh ben oui, puis ça reste une femme tellement extraordinaire.
Vos thèmes au plan de l'inspiration, ça tournait autour de quoi?
Ça a toujours été les voyages, puis la sincérité, puis raconter des choses que je connais, peut-être que je suis pas tellement fantaisiste. J'ai de la misère à écrire pour les autres, mais j'essaie d'être vrai.
Vous dites que vous avez de la difficulté à écrire pour les autres, mais vous avez écrit aussi pour certains interprètes.
Non, ils ont pris mes chansons, mais je n'ai pas écrit.
Pas spécifiquement.
Je pourrais pas dire, je vais écrire une chanson pour, René Claude ou pour Monique Lérac même, parce que si la chanson, elle est là, puis si elle fait l'affaire, ben prenez-la, chantez-la. C'est ça que je pense.
Et c'est souvent une redécouverte aussi.
Exactement, tout à fait. Moi, je suis vraiment très ouvert à ça. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chansons qui ont été perdues. Pas nécessairement les miennes, mais de beaucoup, beaucoup de chansonniers. Qui, tu sais, quand on fait 12 chansons ou 10 chansons sur un micro-sillon, il y en a une qui tourne, puis les autres, ce qui arrive avec les autres, des fois, c'est toutes des bonnes chansons. Des fois, on a mis tout notre cœur, toutes nos tripes là-dedans, puis on se dit comment ça se fait que ça n'a pas tourné, ça.
Mais il faut dire qu'il me semble que depuis quelques années, il y a comme cette redécouverte de ces chansons oubliées, ou de ces noms aussi oubliés. Pierre Calvé, on ne peut pas dire que c'est le chanteur ou l'auteur-compositeur qui tourne le plus à la radio.
Non, je ne veux pas écœurer le peuple, maman.
Mais non, mais quand on entend Pierre Calvé, non seulement on est surpris, mais on est heureux de pouvoir remettre ce son dans nos oreilles.
Non, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'être sur une scène puis chanter pour du monde qui écoute. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Puis maintenant, ce dont je me rends compte, c'est que ça a tellement changé au niveau des spectacles et des tournées qu'on ne peut plus dire dans un mois, je vais chanter à Belœil ou je vais chanter à Montréal-Nord. Je sais pas. Faut se prendre quasiment 2 ans d'avance. Tout est décidé d'avance avec des agences, avec des...
Ça vous attriste, ça?
Ça m'attriste parce qu'on ne peut plus partir comme faire la tournée de Gaspésie, tu sais, parce qu'on rentre en porte-à-faux avec des agences qui ont toutes placé des artistes. Fait que, moi, c'est ça que je voulais. Je voulais m'occuper moi-même de ma carrière, mais ça prend absolument un agent maintenant.
C'est devenu une industrie.
Oh, c'est une industrie, puis on ne peut pas. Puis je le comprends, parce qu'il y en a un qui chante là, puis à l'autre bord de la rue, il y en a un autre, ça ne marche plus, là, tu sais. Fait que tout est...
Mais en même temps, on pourrait dire qu'à cause, peut-être, de ce formatage du placement du variété ou du spectacle, il n'y a plus beaucoup de noms de chanteurs sur les marquises. Mmh. Les humoristes ont beaucoup de place, mais il fut une époque où, à toutes les semaines, on pouvait entendre de la chanson. Maintenant, c'est difficile.
Non, il y a des artistes très, très, très connus qui remplissent des salles, qui, au lieu de faire une semaine, font un soir à cette heure. T'sais, c'est plus comme c'était.
Alors, Pierre Calvé, on va se remettre du Pierre Calvé dans les oreilles avec une chanson qui, moi, m'a ému et que j'ai écoutée maintes et maintes fois quand j'étais un peu plus jeune, mais qui est toujours aussi belle et qui nous amène dans ce beau coin du Québec, aux îles de la Madeleine, Cap-aux-Meules.
Ah, ben oui.
Je connais un pays entouré d'horizons perdus loin des tropiques. C'est comme un hameçon accroché dans le golfe au nord de l'Atlantique. Les gens des îles, d'où viennent-ils, on dit, que c'est de l'Acadie. Parfois on se demande s'ils ont été déposés par la mer, sortis d'un coffre ouvert chargé de contrebande. Quand la belle saison reviendra dans les îles, si tu es seul, attends-moi sur le quai bientôt, j'accosterai à Cap-aux-Meules. Je connais un pays où l'hiver est si long, j'en ai froid quand j'y pense. Sans arbre ni gazon, sa seule floraison, c'est les barques qui dansent. Mais par bonheur, ces plages sont pareilles, baignent dans le soleil du printemps à septembre. Les gens des îles en oublient le sommeil, ils chantent, ils boivent, ils veillent pour oublier décembre. Quand la belle saison reviendra dans les îles, si tu es seul, attends-moi sur le quai bientôt, j'accosterai à Cap-aux-Meules. Je connais un pays, quand on y met les pieds, on touche au bout du monde. C'est si loin de partout, c'est pourtant bien chez nous d'après les maps monde. Ceux qui s'en vont parlent de loups marins, ailleurs ne sont pas bien, ils ont un mal étrange. Le même mal dont souffre le marin, quand le port est trop loin, quand l'amour doit attendre. Quand la belle saison reviendra dans les îles, si tu es seul, attends-moi sur le quai bientôt, j'accosterai à Cap-aux-Meules. Je connais un pays entouré d'horizons perdus loin des tropiques. C'est comme un hameçon accroché dans le golfe au nord de l'Atlantique.
Cap-aux-Meules. Pourquoi cette chanson réussit-elle à ce point à nous y amener aux îles?
La première fois que je suis allé aux îles de la Madeleine, moi, c'était en 66, 67, 68, il faut que je calcule. Quand... Oui, en 66, c'était, il y avait un petit bateau qui s'appelait le Nord-Gaspé, qui embarquait seulement 8 voitures avec des treuils. Hein. Et puis, j'étais allé chanter à Cap-aux-Meules, puis quand je suis revenu, j'ai écrit la chanson. C'est, quand je dis, je raconte des choses que je connais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle aussi Saint-Pierre-Miquelon. Les cartes postales de Miquelon, j'ai écrit Cap-aux-Meules, j'ai écrit Veracruz. J'aime ça raconter une autre qui s'appelle Honfleur. Mais Cap-aux-Meules, j'ai connu les îles quand il n'y avait personne. T'sais, quand on arrivait aux îles, là, tout le monde nous invitait chez eux. Viens dîner, viens souper, viens coucher, viens fêter. Ben, après ça, il s'est mis à avoir plus de monde, des plus gros bateaux. Là, il y a peut-être, je ne sais pas combien il embarque de voitures maintenant, mais il y a eu le Lady Maud Montgomery. Après ça, maintenant, il y a le voyageur, là, il y a le vacancier. Ça n'arrête pas d'aller aux îles. Fait que le monde vend leur maison, ben, ils font du camping. Puis là, c'est plus viens manger à la maison.
Mais d'ailleurs, on dit que le plus beau moment pour aller aux îles de la Madeleine, c'est à l'extérieur du temps de la période touristique, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, là où les touristes ont déserté et où la population reprend prise sur son territoire.
C'est toujours beau, les îles. C'est toujours beau. C'est toujours très, très beau. On est allé combien de fois? Ça fait près de 7-8 fois je vais aux îles. Puis avec la boîte à chansons, avec Jean-Guy Moreau, Claude Gauthier, les Tourneaux, moi... On a fait 2 voyages, puis ça a été 2 fois merveilleux.
Alors, on va poursuivre le voyage. davantage, si vous voulez bien, la semaine prochaine. On n'a même pas eu le temps de parler de votre conjointe, Louise Calvé, qui fait dans la peinture. Mais on a quand même une petite pensée pour elle, parce que comme vous aimez la musique manouche, vous vous souvenez de cette chanson de Maurice Chevalier, Louise?
Hey, Louise et moi, ça fait 52 ans qu'on est ensemble.
Alors, pour Louise, Pierre Calvé, on va écouter Louise interprétée à la façon de Django Reinhardt.
Oh, ça va être beau, ça.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Serge Plaisance, Armand Dubois, l'animation-réalisation. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On poursuit l'entretien avec Pierre Calvé.